Bonjour, c'est Judith. Retrouvez-moi pour votre émission Voyage littéraire sur RPV, Radio Pays Voironnais.
Voyage littéraire. C'est Judith qui est avec vous pour cette émission de lecture et de découverte. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle escale dans les pages écrites par les auteurs de notre pays voironnais et de la région.
Aujourd'hui, je vous emmène au pied de l'orgui, un arbre sacré qui héberge la tribu des Une-Oreille. Nous allons y suivre Sem, le jour de son initiation pour devenir un homme et quitter l'enfance. Il va se rendre devant le grand désert gris qu'il va devoir traverser dans un sens, puis revenir en rapportant une fleur qui ne pousse que de l'autre côté. Et seulement lorsqu'il aura réalisé cet exploit, il sera un homme. Il est accompagné d'autres jeunes gens qui passent le même rituel et du chaman de la tribu. C'est le début de l'épopée de Sem, une saga en deux tomes signée Yann Rambaud. On y va ? Le lendemain, ce fut une longue marche dans un vaste pierrier qui grimpait en pente douce. Le terrain était hérissé de pierres coupantes. Pour économiser les forces des deux jeunes hommes, Freya et Artamis multiplièrent les pauses tout au long de la journée. En milieu d'après-midi, une odeur que Gorik jugea pestilentielle satura soudainement l'air. Une odeur lourde, épaisse, écœurante, qui imprégnait les cheveux, pénétrait les gorges et piquait les yeux. Même Poups s'agitait, secouait la tête et faisait des mouvements de pattes comme pour tenter de s'en débarrasser. Les effluves du désert gris, marmonna le chaman en agitant les gris-gris au bout de son bâton. Depuis l'aube, Gorik ne fanfaronnait plus. Maintenant que l'épreuve était imminente, sa petite voix aiguë comme apeurée s'était rencognée dans le fond de sa bouche. Quand le crépuscule vint flirter avec le jour, que la lumière déclina, le visage disharmonieux de Sem était si pâle qu'on aurait dit un morceau soutiré à l'œil blanc dans le ciel de la nuit. Ses émotions étaient enfermées à double tour. Tous les deux pas, il glissait ou chancelait comme s'il ne maîtrisait plus les commandes de son maigre corps. La nuit tomba. Les guerrières allumèrent des torches. L'odeur n'avait de cesse de s'intensifier. Après s'être extirpé du pierrier et avoir franchi un espace plat où l'herbe était si desséchée qu'elle en était jaune, ils s'arrêtèrent enfin. Les jumelles élevèrent leur flamme le plus haut possible. Une plaine, gris foncé, presque noire, apparut devant eux, entièrement plane, seulement saupoudrée çà et là de petits rochers. Il fallait n'aspirer que de minces filets d'air, tant le parfum que dégageait le désert était abrasif. Non loin de là, les ténèbres bouchaient l'horizon, étouffantes, totales. Les deux jeunes garçons étaient tétanisés, découvrant enfin ce singulier paysage dont ils avaient entendu parler des centaines de fois depuis leur plus tendre enfance. L'endroit était plus silencieux encore que l'intérieur du grand orgui. Pendant qu'Erastéou psalmodiait une étrange litanie en pointant son bâton en direction des larmes de l'œil blanc, les guerrières sortirent des fontes leur fameux poids. Non sans difficulté, car Poups se montrait particulièrement remuante. Sem et Gorik se virent affublés de boules d'acier reliées à de courtes chaînes fixées à chacune de leurs chevilles. « Vous pouvez décider de vous en débarrasser à n'importe quel moment pour aller plus vite, » dit Artamis. « Le système d'attache est simple à utiliser. » Néanmoins, je vous le déconseille. Si le grand bruit surgit, les poids seront peut-être votre seule chance de salut. Les garçons gardèrent le silence, remuèrent un peu les pieds pour évaluer la teneur du fardeau. On leur donna à chacun une torche. Le chaman vint ensuite se poster devant eux et, sans interrompre sa prière, posa sa main droite sur leur front, émettant du bout des doigts une légère pression sur le lobe de leur oreille gauche. Il fit ensuite de même sur leur nuque, leurs yeux et à l'emplacement de leur cœur. « Voilà, nous y sommes, » dit-il dans un souffle. « Il vous faudra plus d'une heure pour atteindre l'autre côté du désert gris et trouver les fleurs. Rapportez-nous un de leurs pétales et vous aurez réussi. Que les dieux vous accompagnent. » Le regard d'Erastéou ripa sur celui de Gorik, s'attarda un peu plus sur celui de Sem. « Maintenant, allez, » compléta-t-il d'un ton ferme. Sem n'avait pas parcouru une très grande distance quand il se retourna pour la première fois. Le chaman et les deux guerrières s'étaient déjà évaporés dans la nuit, on devinait leur présence au seul rougeoiement de leurs torches. Il avançait lentement, dans l'étroite bulle de lumière que lui procurait sa propre flamme. Une chape nuageuse s'était posée, tel un couvercle, sur le désert gris. Chaque pas était douloureux. Les boulets pesaient des tonnes. Seul bruit, le cliquetis des chaînes. Il n'y avait rien dans ce désert, rien que du vide. Chaque mouvement lui soutirait une grimace. Les anneaux cerclés lui cisaillaient lentement les chevilles. Le sol du désert était en pierre noire, étonnamment plat, très granuleux, et toujours cette affreuse odeur qui vous soulevait le cœur. Dès le début, Gorik était parti au pack à danser. Non seulement il voulait réussir l'épreuve, mais aussi, bien évidemment, récupérer le pétale et revenir au point de départ le premier. Il était beaucoup plus fort que Sem. Pour lui, les poids représentaient moins d'entraves. Il avait disparu loin devant dans la nuit, haletant sous l'effort, les boulets roulant avec un crissement singulier. Le garçon concentra son attention sur les battements de son cœur. Il n'avait qu'une seule ritournelle à l'esprit, un air monocorde qu'il se répétait en boucle. « Fasse que les dieux ne fassent pas venir le grand bruit. Fasse que les dieux ne fassent pas venir le grand bruit. Fasse que les dieux ne fassent pas venir le grand bruit. » Et au cœur de cette prière répétée, parvint à se glisser dans son esprit le doux visage de Kolchiké, avec son fameux grain de beauté en forme de goutte, dessinant comme une larme sur le haut de sa joue droite. À la seule évocation silencieuse de la jeune fille, le garçon était saisi de sentiments contradictoires et tumultueux. Puis il finit, dans ce paysage inerte, par perdre la notion du temps. Néanmoins, il continua d'avancer vaillamment. Un premier pied devant, le boulet qui suit, accompagné du bruit de chaîne, puis le deuxième pied, et le second boulet, nouveau bruit de chaîne, avec son souffle rauque dans la nuit noire. Une heure ou plus dut s'écouler ainsi. Il avait cessé de penser et fixait des yeux le bout de ses bottes et leur va-et-vient laborieux. Les muscles de ses jambes étaient endoloris. Il regarda devant lui et, en tendant sa torche, distingua un peu plus loin une éminence herbeuse qui annonçait la frontière nord du désert. Un immense soulagement le saisit. Sans faiblir, il avait accompli la première traversée. Au même moment, une ombre grise apparut de derrière le talus, une silhouette cliquetante. Gorik, son pétale brandi, vint à sa rencontre. Un sourire triomphant et mauvais lui étirait la bouche. « Ah ah ! Alors ? Toujours pas de dragon en vue, hein ? » fit-il de sa voix nasillarde en lui mettant son trophée sous le nez. « Vas-y, face de dedans, il reste encore des fleurs pour toi. Tu ne m'en voudras pas si je ne t'attends pas, car je dois retourner vers mon brillant avenir. » Comme d'habitude, Sem garda le silence. Néanmoins, un élan d'énergie soudain lui traversa le corps. Il se mit en mouvement, tirant les poids de toutes ses forces. Il avait hâte de cueillir le pétale et de revenir sur ses pas, et sortir de cet endroit maudit. En prenant le chemin du retour, Gorik lui envoya une dernière bordée d'injures, suivie d'un rire haut perché, quasi hystérique. Sem l'ignora, se mit à quatre pattes pour gravir plus vite la petite butte, roula de l'autre côté, tomba nez à nez avec les fleurs. Elles étaient éclatantes, un assemblage de taches lumineuses qui parvenaient à trouer l'obscurité. Il était pressé, parcouru d'un léger courant électrique, mais il prit cependant le temps d'adresser une prière aux dieux avant de se servir. Il planta sa torche dans le sol pour avoir les mains libres. Le pétale se détacha de sa fleur avec un léger bruit. Sem frissonna. Quand il revint à l'entrée du grand désert et qu'il vit Gorik loin devant sur le point de se perdre dans la nuit, soudainement arriva le grand bruit. Ce fut d'abord un simple mugissement qui très vite monta en puissance. C'était assourdissant. Jamais Sem n'avait entendu un tel vacarme. Il recula et se boucha les oreilles. Mais le son lui transperçait les mains, venait griffer l'intérieur de son crâne. Alors qu'il se laissait tomber sur les fesses et, en poussant sur les talons, remontait le plus vite possible en direction du talus, Gorik s'était figé et, tourné dans sa direction, le regardait avec des yeux ahuris. Ses lèvres articulaient des mots que Sem ne comprit pas. Puis la lumière vint, éclatante, soudaine, alors que le bruit continuait à s'amplifier. Sem poussa un hurlement pour ne pas devenir fou. Il s'allongea sur le côté, remonta les genoux, ramena les poids contre sa poitrine, tout en tenant fermement son fameux pétale. L'étonnante lumière avala Gorik. Un instant, le dragon passa. Un vent puissant le fit se décoller du sol. Le jeune homme disparut si vite que c'était à croire qu'il n'avait même jamais existé. Une ombre immense. La lumière s'amenuisa rapidement, avant de définitivement s'éteindre. Le vacarme se transforma en un vrombissement, puis en un léger chant lugubre, puis plus rien. Le grand désert gris était redevenu silencieux, puant et enténébré. Les oreilles de Sem bourdonnaient. Tout s'était déroulé en quelques secondes. Il se releva, chancelant, confus. Il s'accorda une minute de répit, puis, tout tremblant, posa un premier pied sur la surface noire, fixa la nuit loin là-bas, où l'attendaient Artémis, Freya, Erastéou, Poups, et pria les dieux pour que, lors du retour, l'incroyable bruit ne revienne pas. Voilà! Alors, j'ai choisi cet extrait parce que c'est un des premiers chapitres du premier tome de cette saga, l'épopée de Sem, qui nous montre à la fois l'ambition de Sem, c'est-à-dire devenir un homme, sortir du monde de l'enfance, en affrontant ce que sa tribu connaît de plus dangereux et de plus valeureux. Et ce passage vous donne également les codes de cet univers, un univers très ethnique, avec une tribu très liée à la nature, et des créatures qui sont propres à la manière dont les personnages les voient, c'est-à-dire gigantesques et très effrayantes. L'épopée de Sem, c'est un récit initiatique, un roman d'apprentissage, où l'on va suivre le personnage de Sem, avec son histoire, ses rencontres, ses relations amicales, amoureuses, et surtout le lien qui l'unit à son mentor, puisque Sem a pour ambition de devenir lui-même chaman. Et puis aussi l'univers dans lequel il évolue, qui est un univers végétal. On devine que l'on se trouve au pied d'un grand arbre qui a une puissance spirituelle très très forte. Mais ce qui fait la particularité de ce roman, c'est qu'il y a une petite clé qui permet de décoder et de comprendre pas mal de choses. Par exemple, de comprendre pourquoi les habitants vivent dans un arbre et pourquoi les créatures que l'on croise nous semblent à la fois si familières. On a l'impression qu'on connaît ces bestioles-là, mais aussi qu'elles sont absolument gigantesques. Et cette clé, je ne vous la donne pas, mais je vous invite à la découvrir parce qu'une fois qu'on l'a, c'est un vrai plaisir de tout décoder et de comprendre tout le double sens de ce roman. L'épopée de Sem contient 2 tomes, tous les 2 publiés aux éditions Ozu, et elles sont signées Yann Rambaud. Et Yann Rambaud, c'est un auteur spécialisé dans la littérature de jeunesse et qui est un auteur du pays voironnais, puisqu'il habite juste à côté de Voiron. Les lecteurs voironnais, les jeunes lecteurs voironnais le connaissent bien. Je vous invite donc à suivre Yann Rambaud sur ses différents réseaux et à aller aux différentes rencontres qu'il anime sur le territoire du pays voironnais et ailleurs, puisqu'il est assez facile de le rencontrer, et à vous procurer tous ses ouvrages dans les meilleures librairies. Où est-ce que je vous emmène la prochaine fois ? Et si je vous emmenais dans notre belle montagne iséroise en plein hiver ? Ça vous dit ? Prêt pour votre prochain voyage littéraire ?